Cela fait depuis un an que je commence pratiquement mes prédications en disant « Nous retrouverons la vie d'Abraham ». Cette fois-ci, c'est fini. Il a fallu passer à autre chose. Et je vous invite donc à une nouvelle thématique de réflexion qui trouve sa source dans les évangiles cette fois-ci, qui essayera de voir au cours des prochaines semaines ce que signifie vivre en disciple, vivre en disciple. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 14 à 20. Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20. Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Et il disait, « Le temps est accompli. » Le royaume de Dieu est proche ou s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque et réparait leurs filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et là, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner, et ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et puis chapitre 2, nous lisons les versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau, c'est un peu plus tard, du côté de la mer de Galilée. Toute une foule venait à lui, il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Voilà jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. Comment parlez-vous de votre relation au Christ? Tout dépend bien sûr du point où vous en êtes. « Je suis en recherche », diront certains. « Bienvenue, persévérez ». « Je connais le Seigneur depuis longtemps », diront d'autres. « Continuez, progressez. » Beaucoup dépend aussi du contexte. Dire à vos collègues, à vos amis « J'ai la foi » ou « Je suis croyant, je suis croyante », c'est déjà beaucoup, même si on ne précise pas en qui on croit. Nous sommes en France assez pudiques sur ces sujets. La foi fait partie des sujets que l'on aborde souvent par petites touches. Alors dire « j'ai la foi », c'est déjà pas mal. C'est pas le cas ailleurs. J'ai reçu hier un courrier venu de Côte d'Ivoire qui parlait de la mission CAC. Mission CAC, c'est pas le CAC 40, mais c'est mission cohorte acquise à Christ. Je suis pas sûr que nous mettrions cela sur notre carte de visite ici en France. Comment parlons-nous de notre relation au Christ? Les évangiles nous parlent d'être disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui est à son école. C'est aussi quelqu'un qui suit l'exemple de celui qu'il considère comme son maître, qui cherche à être fidèle à ses idées, fidèle à ce qu'il a été. Alors on emploie assez volontiers ce mot de disciple dans le domaine de la pensée. Certains se disent, assez fiers de l'être, disciples de Freud ou disciples de Kierkegaard. Mais le mot n'a peut-être pas toujours très bonne presse dans le domaine religieux. Parce que dans le domaine religieux, disciple, ça fait penser un petit peu à gourou, Le mot évoque l'idée d'une dépendance, de manipulation. On n'a pas trop envie ça, d'être le disciple de cette façon-là. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur à Nîmes, nous utilisions pour notre formation des nouveaux chrétiens un ouvrage qui s'intitulait « Le maître et son disciple ». Ça disait Jésus et ceux qui le suivent. Et j'étais toujours très gêné au moment des annonces. Jeudi soir à 20h, j'animerai la rencontre « Le maître et son disciple ». Il fallait toujours préciser que le maître, c'était Jésus et non pas moi, et que nous sommes tous à l'école de Jésus. Vivre en disciple, c'est pourtant une dimension importante de notre relation au Seigneur Jésus. Parler de discipulat, ça veut dire que la foi est un apprentissage qui concerne tous les domaines de notre vie. Et Jésus a à nous apprendre dans tous les domaines de notre vie. Et il nous faut donner une vraie place à cette notion de vivre en disciple. Les derniers mots de Jésus à ses apôtres ont été d'ailleurs dans ce sens. « Faites des disciples parmi toutes les nations, en les baptisant, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et lorsque nous parlons de suivre Jésus, c'est un autre mot qui va avec l'idée d'être disciple, suivre Jésus, cela nous rappelle que la foi n'est pas simplement la décision d'un instant, ou que la foi n'est pas simplement la pratique d'un jour par semaine, mais c'est une école pour toute la vie. Il s'agit de suivre Jésus dans tout ce que nous vivons à chaque étape de notre vie. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. C'est un appel élevé. Et nous allons donc ces prochains dimanches essayer d'en discerner quelques aspects. Mais avant d'approcher ces textes, une remarque. C'est assez étonnant, mais le mot de « disciple » ne se trouve dans le Nouveau Testament que dans les évangiles et dans les actes. Paul ne l'emploie pas du tout, ni Jacques, ni l'Épître aux Hébreux. Paul désigne systématiquement les chrétiens comme des croyants. Vous avez cru, vous qui avez cru, c'est comme ça qu'il parle aux chrétiens. Et lorsqu'il invite à vivre selon le Christ, il dit « Servez le Seigneur !» Mais il ne dit pas « Suivez votre maître !» Il y a une différence. « Servez le Seigneur », c'est vertical. « Suivez votre maître », c'est horizontal. Paul part toujours en vertical. Même le thème de l'imitation de Jésus-Christ, qui va avec l'idée d'être disciple, imiter le Christ, même ce thème est peu affirmé chez Paul. Il rappelle aux chrétiens qui souffrent qu'ils sont des imitateurs de Christ. C'est pour les aider, les consoler dans leur souffrance. Il invite aussi les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Donc là, il y a une idée d'une imitation du Christ. Mais l'exemple du Christ est très rarement invoqué dans des cas particuliers en relation avec tel ou tel aspect de la vie terrestre de Jésus. Par exemple, Paul ne dit jamais « Comme Jésus a touché les lépreux, n'ayez honte de personne. » Ou il n'y jamais « Comme Jésus a parlé à la femme samaritaine, ne faites aucune distinction entre les races. » Ou « Comme Pierre et Jean ont tout quitté, vous devez tout laisser pour Jésus. » Jamais on entend ce genre de langage chez Paul. Et c'est pourtant le genre de choses que l'on considère lorsque l'on suit un maître. On essaie de voir ce qu'a été sa vie, comment imiter la vie et en tirer des leçons. Comment marcher dans ses traces? Alors comment expliquer que Paul ne développe pas cette approche-là de Jésus? Je vous propose trois pistes, parce qu'il faut y réfléchir, ça peut être un peu troublant. La première, c'est qu'il y a en effet un grand changement qui intervient après l'ascension de Jésus. Jésus a terminé son ministère sur terre, il n'est plus là comme au temps de son incarnation. Il ne marche plus devant nous physiquement comme c'était le cas pour ses disciples autrefois. Il est désormais le Seigneur glorifié. Et donc c'est vrai qu'au lieu du schéma horizontal, le Seigneur marche devant nous, on va le suivre, on a un schéma quand même beaucoup plus vertical. Le Seigneur est là, il est notre Seigneur, il faut vivre selon lui. On ne reproduit donc pas les faits et les gestes de Jésus par imitation de ce que l'on voit concrètement. On ne suit pas un Jésus qui nous précède, comme c'était le cas. Mais tout est beaucoup plus intériorisé. C'est à présent l'Esprit qui nous transforme intérieurement pour que, comme le dit l'apôtre Paul, Christ soit formé en nous. Et là, on a une expression intéressante de l'apôtre Paul qui dit « Mon but, c'est que Christ soit formé en vous. » Le but de l'œuvre de l'Esprit, c'est que Christ soit formé en vous. Et donc, il y a là quelque chose qui ressemble à l'imitation de Jésus, mais en prenant en compte le fait que le Christ n'est pas présent physiquement, mais c'est beaucoup plus intériorisé. Une deuxième donnée à prendre en compte, c'est que les évangiles, les écrits, les quatre évangiles, n'étaient pas encore à disposition au temps des chrétiens, au temps des chrétiens et des églises du temps de Paul. On connaissait la vie de Jésus par la tradition orale, ce que transmettaient les témoins qui l'avaient connu. Et il y avait des parties de l'enseignement de Jésus qui circulaient sous forme écrite, mais les évangiles qui vraiment racontaient la vie de Jésus, comme nous les avons, n'étaient pas encore formés lorsque l'apôtre Paul écrit la plupart de ses épîtres. Ce qui veut dire que les chrétiens du temps de Paul avaient une certaine connaissance des grands faits de la vie de Jésus, mais ils ne pouvaient pas méditer comme nous le pouvons sur la vie de Jésus parce que les évangiles écrits comme nous les avons n'étaient pas encore à leur disposition. Et c'est certainement une autre raison pour laquelle Paul ne peut pas renvoyer constamment à l'exemple de Jésus. Une troisième piste, c'est que Jésus, lorsqu'il a parcouru la Judée avec ses disciples à sa suite, a adopté un modèle qui était propre au monde juif du premier siècle. Avant Jésus, il y avait déjà des maîtres qui avaient des disciples. Il y avait déjà des rabbis qui avaient des disciples autour d'eux. Jésus n'a pas innové en faisant cela. Au contraire, il est entré dans quelque chose qui existait déjà. Jésus en parle d'ailleurs. Il parle lui-même de ceux qui aiment se faire appeler par les hommes rabbi, rabbi. Donc ça existait autour de lui, ça existait avant lui. Et les disciples de ces rabbis étaient des gens qui quittaient tout pour un temps et qui suivaient leur maître dans différents déplacements et dans leurs interventions. Et donc Jésus est entré d'une certaine façon dans ce modèle existant pour réaliser son projet à lui. Il voulait former à son contact des hommes qui pourraient rendre témoignage de lui, de sa personne, de son enseignement, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, et donner ensuite la signification de tout cela pour l'Église après son départ. Mais le fait que ce modèle existait déjà dans le contexte juif veut dire qu'on ne peut pas absolutiser tous les aspects de ce modèle du maître et du disciple. Certains étaient liés au contexte du judaïsme du premier siècle, là où Jésus a vécu, là où il a choisi de se manifester. Par exemple, il ne serait pas juste de dire qu'il nous faut impérativement, si nous voulons suivre le Christ, former des communautés de vie, hein, parce que les disciples de Jésus ont vécu en communauté de vie. Hein, la communauté de vie, ça faisait partie des manières de vivre ce disciple-là, dans ce contexte-là. Jésus est entré dans ce contexte, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'il nous faut reproduire à l'identique. Comme toujours, il nous faut réfléchir et adapter avec discernement. Alors, que tirer de tout cela? Simplement, il ne faut pas opposer, on ne peut pas opposer Paul et les évangiles. Paul a le souci que Christ soit formé en nous, et son exemple compte donc absolument. Il souligne que c'est l'œuvre de l'Esprit, il invoque comme exemple les grandes lignes claires de la personne, de l'œuvre de Jésus. Mais les évangiles nous donnent plus d'éléments concernant Jésus, et c'est le cadeau que l'Esprit-Saint a fait à l'Église, pour justement former Christ en nous. Et nous ne devons surtout pas nous priver de ce cadeau qui nous est donné grâce aux évangiles et à tout ce que nous savons de Jésus. Mais en même temps, il faut reconnaître la différence des temps. Nous n'allons pas tout reproduire comme ça s'est passé au temps de Jésus quand il était sur terre. Il s'agit d'intérioriser tout cela. Voilà quelques mots simplement pour cette petite problématique de dire, est-ce que finalement c'est important de faire des disciples, d'être disciples, parce que Paul n'en parle pas. Oui, c'est important, nous l'avons vu, il faut que Christ soit formé en nous. Venons à présent à notre texte du début de l'évangile de Marc. Assez nettement, Marc veut, dès le début de son évangile, nous montrer les enjeux de ce qui est en train de se passer. Le terrain a été préparé par Jean-Baptiste et Jésus paraît, nous l'avons lu. Son message est présenté en quelques mots, plutôt incisif. C'est une bonne nouvelle, nous dit Marc. Mais pour immédiatement préciser, la bonne nouvelle de Dieu. Pas juste une bonne nouvelle de plus ou un scoop intéressant du moment. Non, la bonne nouvelle de Dieu. Elle vient de Dieu. Elle dit ce que Dieu est en train d'accomplir. Elle est un message de Dieu pour nous. Jésus, nous dit Marc, prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Et quel est-il, ce message? Tout sauf la proclamation de vérité intemporelle venue du fond des âges ou d'une sagesse qui est là, qui enfin arrive après avoir mûri longtemps. Le message de Jésus a la force de la dynamite. C'est le temps de Dieu, dit-il, maintenant. Le temps de Dieu est accompli, le temps est accompli. C'est la manifestation du règne de Dieu, dit Jésus, qui est tout proche, qui s'approche, qui fait irruption dans notre histoire. Dieu visite son peuple pour remettre les choses d'aplomb, pour tout renouveler, pour juger aussi. C'est ce que veut dire le règne de Dieu. Dieu remet les choses à droite d'aplomb. Repentez-vous donc. Changez d'attitude. Prenez au sérieux ce que Dieu est en train de faire. Laissez-vous reprendre là où vous faites le mal et croyez à la bonne nouvelle. Donnez votre adhésion de cœur à ce qui est en train de se faire. Voyez la main de Dieu dans ces événements. Laissez cela déterminer votre vie, vos choix, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça le message de Jésus, résumé en quelques mots, percutant. Quelque chose se passe, ça nous revendique d'une certaine façon. Repentez-vous, croyez. Il nous faut retrouver ce côté percutant de l'annonce du message de Jésus. L'évangile, où on connaît, on a entendu, on connaît l'histoire, ça fait longtemps, longtemps. Oui, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi cette histoire de l'évangile? Ce n'est pas une vérité générale, tranquille, du style « Vous savez, Dieu a de l'amour pour l'humanité. » L'Évangile, c'est une autre nouvelle que cela. Dieu a fait du neuf dans l'histoire. Dieu amène l'histoire à sa dernière étape, à son accomplissement par l'œuvre et la venue de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Dieu s'intéresse à nous. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Mais c'est du sérieux, ça va tout bouleverser, c'est le règne de Dieu aussi, au bout. Dieu va remettre de l'ordre un jour dans ce monde, mais d'abord, il veut remettre de l'ordre dans nos vies. Très incisif, percutant, c'est cela le vrai message de l'Évangile. Quelque chose intervient, il faut être à la hauteur de l'événement. Vous savez, quand il y a un événement qui se passe, tout d'un coup, tout le monde se met à courir. Vous le voyez, hein, si vous voyez, à un moment donné, il y a un petit rassemblement qui se passe quelque part, il peut y avoir un accident ou je ne sais trop quoi. Tout d'un coup, que vous le veuillez ou non, vous commencez à marcher plus vite parce qu'il y a quelque chose qui est là-bas au bout. C'est pareil dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, tout va vite. Tout va vite parce que, justement, Jésus apporte quelque chose de neuf. Vous savez quel est le mot de liaison préféré par Marc? Le mot préféré de liaison de Marc, c'est « aussitôt ». Aussitôt. 26 fois, il utilise ça dans l'Évangile. C'est pour dire, il y a de l'urgence, il y a des choses qui se passent, il y a de l'événement. C'est une façon de montrer que l'Évangile est une urgence, l'urgence d'un événement qui se passe, et non pas une généralité tranquille qui berce la vie. Et lorsque Jésus apparaît sur la scène publique en Galilée, on comprend très vite qu'il ne sera pas un prophète solitaire dont la voix crie dans le désert, comme ça avait été le cas de Jean-Baptiste. Mais on comprend qu'il sera plutôt un leader, un meneur, dont la tâche en tant que Messie sera de créer une communauté de gens qui le suivent. Tout comme l'évangile de Dieu retentit comme une percée, de même son action, lui qui incarne cet évangile, est une action qui est décisive aussi, qui fait bouger les lignes, qui fait bouger les gens, qui fait bouger les choses. Et c'est ce que nous montre tout le chapitre 1 de l'évangile de Marc et l'appel des disciples en particulier. Ce qui frappe dans le récit de l'appel des premiers disciples, c'est cette note de l'immédiateté et du changement que crée la parole de Jésus. Tout est rapide, décisif. Jésus passe, Jésus voit deux frères, Jésus les appelle à le suivre, ils laissent tout, ils le suivent. Puis Jésus voit deux autres frères, et c'est exactement le même schéma. Et au chapitre 2, c'est exactement pareil pour Lévi, qui est certainement l'évangéliste Matthieu. Petite information d'arrière-plan culturel. Au temps de Jésus, quand un maître avait une certaine notoriété, comment se passait le recrutement des disciples ? En fait, ce qui se passait, ce n'était pas le maître qui choisissait ses disciples, c'était les disciples qui choisissaient leur maître. Le maître était installé dans sa chair, et ce sont les disciples qui s'approchaient, qui choisissaient de venir apprendre auprès de ce maître, qui décidaient du temps où ils allaient rester auprès de lui pour aller éventuellement vers un autre rabbi ultérieurement. Toute l'initiative était du côté des disciples. C'est eux qui apprenaient, je ne sais pas s'ils étaient payeurs, en tout cas c'était eux qui déterminaient tout. Avec Jésus, c'est l'inverse. C'est Jésus qui passe, c'est Jésus qui voit, c'est Jésus qui appelle. Et la réponse est immédiate et radicale. Autrement dit, la relation maître-disciple est complètement inversée par rapport à ce qui se faisait alors. Jésus incarne une réalité et fait que c'est lui qui entraîne, que c'est lui qui a autorité, que c'est lui, et c'est ce qui donne force à son appel, justement parce qu'il incarne ce royaume de Dieu qui vient, cette manifestation de Dieu qui fait irruption dans l'histoire. Et c'est cette force que Marc veut nous faire sentir. Alors évidemment, nous, lecteurs modernes, on est un peu surpris que ça aille si vite. On cherche à comprendre, on cherche à trouver des raisons. Pourquoi est-ce qu'ils ont répondu si vite? Pourquoi est-ce que ça allait si vite? Alors nous imaginons que ces hommes attendaient impatiemment le règne de Dieu et que quand Jésus arrive, c'est juste la réponse à leur attente. Nous les imaginons peut-être à une étape de leur vie où ils attendaient juste que quelque chose de neuf se passe. Jésus est venu, ils embrayent. Nous découvrons par les autres évangiles qu'ils avaient déjà été sensibilisés auprès de Jean-Baptiste et qu'ils étaient prêts à entendre l'appel de Jésus. Alors on peut invoquer tout cela, mais c'est passé à côté de ce que Marc veut nous dire dans son style lapidaire. Ce que Marc veut nous dire, c'est que quand Jésus appelle à le suivre, c'est une parole forte. C'est une parole forte, parce que Jésus incarne quelque chose de fort. C'est une parole qui fait autorité à cause de ce qu'est Jésus, à cause de ce qu'il incarne, à cause de ce qu'il met en œuvre dans le monde. Et la suite du chapitre met en lumière cette même perspective. On aurait pu lire la suite du texte, mais après l'appel des disciples, on décrit Jésus qui continue son ministère. Et qu'est-ce qu'on découvre juste au paragraphe qui suit l'appel des disciples ? On découvre que Jésus étonne par son enseignement, car, nous est-il dit, il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Marc 1, verset 22. Puis Jésus chasse un démon et on s'écrie « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine avec autorité, car il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Puis on voit la belle-mère de Pierre qui est malade et Jésus repousse la fièvre. Là encore, on voit sa puissance sur tout, sur toutes sortes de maux. Et tous les gens viennent avec... les gens de la ville viennent pour qu'ils s'occupent d'eux. Avec la même autorité dans la suite de l'évangile, Jésus a d'autres paroles. « Silence, tais-toi, dira-t-il au vent, et la tempête cessera. Talita cum, jeune fille, lève-toi, dira-t-il à une jeune enfant, et elle ressuscitera. Ephphatha, ouvre-toi, et les oreilles d'un sourd s'ouvriront. Que personne ne mange de ton fruit, et un figuier desséchera jusqu'à la racine. » Tout cela, c'est dans l'évangile de Marc. Qu'est-ce que cela nous dit ? Et quand Jésus parle, c'est sérieux. Que l'appel de Jésus, c'est sérieux. Que l'appel à suivre Jésus, oui, est une parole sérieuse et une parole à prendre au sérieux. Elle a de la force, elle a de l'autorité. Elle a la force et l'autorité que lui confère ce que Jésus incarne. Et il faut la recevoir de cette façon. Cela prenait à contre-pied toutes les habitudes de l'époque. Mais ça prend aussi nos habitudes à nous à contre-pied. Car aujourd'hui, tellement souvent, pour tant de gens, tout est et tout doit rester dans le domaine de la foi, sous le régime du « si je veux bien, si ça m'arrange ». Si je n'ai pas trop de responsabilités à côté, là oui, je veux bien faire tout ce qui m'est demandé du côté de la foi. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il n'a pas fait comme nous on fait dans les églises. Hein. Il n'a pas pris un paperboard sur lequel il aurait mis une belle feuille blanche avec la mention « Envoyé de Dieu serait intéressé par quelques hommes et femmes de bonne volonté dans la mesure de leur disponibilité ». C'est ce qu'on fait, nous, dans les églises, avec le sourire. Jésus dit, « Toi, suis-moi. » Pas tout à fait la même chose. Jésus n'a pas planté non plus à côté de lui un panneau. « Heure d'ouverture du matin telle heure jusqu'au soir telle heure, je serai disponible pour toutes celles et ceux qui désireraient s'entretenir du royaume de Dieu. » En passant, Jésus vit Simon et André et leur dit « Suivez-moi ». Ils laissèrent tout et le suivirent. C'est cela l'évangile. C'est ça, être disciple. C'est quand la dernière fois que ce genre de choses s'est passé dans votre vie? C'est quand la dernière fois que l'appel d'une situation c'est comme imposé à vous parce que vous êtes disciple de Jésus. En disant, parce que j'appartiens à Jésus, je dois faire cela absolument. C'est quand la dernière fois que cela vous est arrivé? Ou est-ce que dans notre rapport avec le Seigneur, la ligne rouge qu'il ne doit pas franchir est le volontariat à respecter? Ma disponibilité à préserver, pour préserver l'authenticité de ma relation et de mon engagement, bien sûr. La force de l'appel de Jésus, parce que l'évangile, c'est sérieux. C'est si facile d'enfermer l'évangile dans une boîte de choses que l'on sait, auxquelles on peut réfléchir, dont on peut parler, mais qui ne doivent pas nous déranger, pas trop nous déranger en tout cas. Un jour, dans une faculté de théologie, un groupe d'étudiants travaillait sur la parabole du bon samaritain. Jésus met dans cette parabole en scène un homme blessé sur le chemin, et cet homme est laissé pour compte par un prêtre d'abord, puis par un spécialiste de la loi qui passe à côté de lui sans rien faire. Et seul un samaritain, ces samaritains dont on disait tellement de mal, seul un samaritain a compassion de lui et s'est arrêté pour lui. Le professeur a travaillé le texte avec les étudiants et il les envoie dans une autre aile du campus pour travailler en groupe sans délai sur les applications de ce texte. Mais le professeur, qui est un petit malin, avait demandé que sur le trajet entre le lieu de cours et l'endroit où il devait travailler, il avait demandé à un SDF du quartier de se placer là pour demander de l'aide à ceux qui passeraient. Seuls 40% des étudiants ont adressé la parole à cet homme. On met l'évangile dans une boîte, on en parle, on en discute. Mais qu'est-ce que ça change quand on est en face des situations concrètes? Jésus dit, suis-moi. C'est sérieux, l'appel de l'évangile. Et parfois, il faut que ça nous bouge un peu. Comme ça a bougé Pierre, André, Jean et Jacques. Et les autres. Un autre point qu'on peut remarquer dans l'appel des disciples, c'est que ceux qui sont choisis n'ont pas de préparation particulière. Jésus ne choisit pas pour les former des gens spécialement qualifiés, des gens qui sortiraient du lot, des gens auxquels tout le monde promet un avenir brillant. Il choisit des pêcheurs, des gens simples, des travailleurs, mais pas spécialement formés, ni spécialement religieux. Jésus, par exemple, n'est pas allé à la synagogue pour choisir ses disciples. Il les a choisis sur le terrain. Alors dire cela, ce n'est pas dévaluer la formation. Car justement, si Jésus les choisit, c'est parce qu'il veut les former. Et Jésus prendra le temps de les enseigner, mais aussi de leur faire faire toutes sortes d'expériences à ses côtés. Jésus s'intéressera à leur personne, à leur caractère. Il a donc un projet pour eux. Tout comme lorsqu'il nous appelle à être disciples, il a un projet pour nous. Il veut nous former, nous aussi. Il veut que dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, parce que nous recevons de sa parole, quelque chose de lui grandisse en nous. C'est cela pour nous, être des disciples, que quelque chose de lui grandisse en nous. Et c'est vrai que pour entrer dans ce programme, les mots-clés sont ouverture, disponibilité, écoute, obéissance. Mais chacun est invité. Les premiers disciples étaient des gens comme tout le monde. Et Jésus s'est chargé lui-même d'en tirer le meilleur. Alors Jésus a aussi choisi des gens bien formés. L'apôtre Paul était quelqu'un de très formé, de très érudit. Mais ça ne lui a pas donné un rang plus élevé qu'aux autres. Et pour nos disciples, c'est au fur et à mesure qu'ils avanceront avec Jésus, qu'ils découvriront, qu'ils apprendront. Et c'est vrai que la suite du chapitre 1 de Marc est très intéressante à cet égard. Que découvrent-ils? Ils ont tout laissé pour suivre Jésus, que découvrent-ils? Marc enchaîne les épisodes pour montrer que Jésus étonne par son enseignement, par son autorité en parole, en acte, par son autorité sur les puissances mauvaises, sur la maladie aussi. Mais tout cela, Jésus le vit aussi dans une relation avec son Père dont il a besoin, Marc le dit dans le chapitre 1. Et ceci avec un projet plus large, Jésus ne se laissera jamais cantonner juste à Capernaum, il dira il faut qu'on aille aussi vers les autres. Et partout où on va, c'est le même étonnement, la même manifestation que Dieu est là, que Dieu est à l'œuvre, que quelque chose de neuf est en train de se réaliser. Et être disciple, nous dit Marc, c'est découvrir cela. C'est découvrir la réalité de l'action de Dieu et de sa présence. Et c'est juste passionnant de lire l'évangile de Marc avec ce regard-là. Pas juste lire l'évangile de Marc en disant « qu'est-ce qui s'est passé autrefois quand Jésus était sur la terre ?» Mais lire l'évangile de Marc en se disant « je suis un disciple de Jésus ». Qu'est-ce que les disciples ont découvert de Jésus lorsqu'ils ont vécu avec lui? Lisez tout l'évangile comme cela. Ça change la perspective. Moi, je suis disciple, qu'est-ce que je découvre? Si on se met dans la peau de ces gens-là, il y a quelque chose de fort qui commence à se dessiner, de dire « mais Jésus agit, mais il y a des choses qui peuvent se passer ». Alors bien sûr, l'action de Dieu n'est pas la même dans tous les siècles et dans tous les lieux, on le voit encore aujourd'hui. l'action de Dieu n'est pas la même en France, au Brésil ou ailleurs. Mais quand même, c'est le même royaume, c'est le même Seigneur. Et je pense qu'il est bon pour nous de lire l'Évangile de cette façon-là, en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer quand on suit le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer. Et il faut lire cela pour que ça nous donne faim, que ça nous donne soif de découvrir la prochaine chose que Dieu va faire pour nous aussi. Découvrir la prochaine chose que Dieu va faire en nous. Parce que c'est ça l'Évangile, Dieu à l'œuvre, vraiment. Appelés à être disciples. J'aimerais vraiment que nous laissions résonner tout à nouveau cette parole de Jésus qui dit « Suivez-moi », qui dit « Toi, suis-moi, marche à ma suite, apprends de moi, découvre ce que j'ai en réserve pour toi, découvre ce que je peux faire autour de toi et bien plus largement dans ce monde. » Cet appel, il s'adresse à nous si nous sommes en approche de la foi, en première découverte. C'est en s'ouvrant personnellement que l'on découvre ce que Jésus veut être pour nous. Mais il s'adresse aussi, et il doit le faire régulièrement, à nous tous qui sommes déjà engagés depuis plus longtemps avec le Seigneur. Assurons-nous bien que le oui que nous avons dit à Jésus lorsque nous lui avons ouvert notre vie, que ce oui reste oui. Assurons-nous bien qu'il en est ainsi. Renouvelons notre oui au Seigneur en notre cœur. Renouvelons notre oui à Jésus, à ce qu'il veut faire avec nous, à ce qu'il veut faire pour nous, à son règne qui s'est manifesté et qui nous convie toujours à nouveau. Notre oui à Dieu ne doit pas se fossiliser dans la préhistoire de notre vie chrétienne. Notre oui à Dieu ne doit pas se fossiliser dans la préhistoire de notre vie chrétienne. C'est chaque jour. Il faut dire oui. Que Dieu nous bénisse chacun dans cette voie. Amen.